Je suis en compagnie de Nadia Yala Kizukidi. Merci beaucoup de me recevoir dans votre bureau. Nous parlons de La Dissociation, ce roman paru pendant la rentrée littéraire de septembre aux éditions du Seuil. J'aimerais vous poser cette première question assez simple. Qui est cette héroïne, la narratrice, et pouvez-vous d'abord la décrire et nous raconter son enfance ?
Le roman commence effectivement en posant la figure d'une héroïne tout à fait singulière. Déjà, c'est peut-être pas une héroïne. Et c'est une jeune femme qu'on découvre dans son enfance, qui est élevée par sa grand-mère dans une petite ville du nord de la France. Cette jeune femme a perdu ses parents. C'est la raison pour laquelle elle est élevée par sa grand-mère. Et vers l'âge de 10 ans, on découvre, ou en tout cas sa famille découvre, sa grand-mère découvre, qu'elle ne grandit plus et qu'elle ne va plus grandir. Et c'est à partir de ce moment précis, en fait, que un ensemble d'éléments, des douleurs familiales, de la folie, vont ressurgir dans la vie de sa jeune femme. Et ils vont avoir pour premier effet de transformer la maison aimante dans laquelle elle a été recueillie par sa grand-mère en une prison de folie et de violence qui va la pousser finalement à s'enfuir et à s'échapper. Et c'est précisément cette échappée et porte un désir, le désir de trouver un lieu, un refuge, une communauté où la vie humaine n'est pas diminuée. Et donc voilà un petit peu comment commence le roman, sur un désir d'échapper, le désir de trouver un espace, un refuge où la vie humaine n'est pas diminuée.
Si bien que cette héroïne va faire des rencontres et qu'on pourrait lire votre roman, La Dissociation, comme un livre des différentes rencontres que ce personnage va faire. Celle qui parcourt le livre, et c'est la première rencontre, c'est celle avec Luzzolo, artiste et théoricien.
Oui, alors il y a juste un élément que je n'ai pas mentionné, qui est quand même l'élément qui donne son titre à l'ouvrage, c'est que la dissociation, c'est le nom dans le roman à ces différentes échappées et à ces différentes rencontres. Puisque quand elle est confrontée à la violence du monde, qu'elle va découvrir justement dans la sphère familiale, avec une grand-mère qui va devenir folle, qui va devenir violente, pas en la rouant de coups, mais en mobilisant un langage, des mots en fait, qui vont véritablement la terroriser, la diminuer, et bien pour s'échapper de cette violence verbale, elle va commencer à se dissocier, c'est-à-dire quitter son corps pour aller voyager en esprit et justement retrouver cet espace qui lui permettrait d'augmenter son pouvoir de vivre et de vivre de manière surabondante. Donc en fait, le roman, c'est effectivement l'histoire de rencontres, c'est effectivement l'histoire d'une traversée, de voyage, comme dans un roman initiatique ou comme dans un roman picaresque aussi, mais ce voyage, on ne sait pas si c'est un voyage réel ou si c'est un voyage en esprit. Et c'est ça, en fait, la dissociation. On a affaire à un personnage qui est à la fois corps et qui est esprit. Le corps et l'esprit ne coïncident pas. Et quand on se retrouve dans la vie de l'esprit, on se rend compte qu'elle est multiple et qu'elle aussi, également, vit de multiples vies et de multiples voyages.
Et c'est ce qui va se passer avec ce personnage, Luzzolo, personnage qu'on a l'impression qu'il arrive avec une existence sûre au début du roman, quand elle le rencontre, et qui va l'accompagner jusqu'à la fin. Pouvez-vous nous expliquer un peu la rencontre du début et après ce qui se passe sur ce parcours où elle l'invoque, elle le convoque, je ne sais pas quel terme vous voudriez utiliser.
Alors Luzzolo, c'est un de mes personnages préférés dans le roman, je crois. C'est un personnage qui reste dans tout le roman. Il apparaît dans la première partie, justement, qui s'intitule « Ceux qui rient, ceux qui disparaissent » et qui décrit un mouvement. Et c'est un artiste, alors qu'on devine d'Afrique centrale. Son nom est un nom, en tout cas, d'Afrique centrale. Et c'est un artiste qui a un rapport très très compliqué à l'art, et c'est un personnage un peu burlesque, puisque c'est précisément un artiste qui n'aime pas l'art. Et il va être très important dans le roman, au moins pour une première raison, c'est qu'il va faire un cadeau à la narratrice. Il va lui offrir un carnet justement où elle peut noter toutes les idées qui lui viennent à l'esprit quand elle se dissocie. Et Luzolo est un des premiers personnages que la narratrice rencontre et qui va justement lui dire « Mon Dieu, tu possèdes un art à nul autre pareil, l'art de te dissocier, c'est-à-dire l'art finalement d'échapper de ton corps, d'échapper de cette violence pour vivre dans des espaces qui sont véritablement des réalisations de rêves éveillés. » Et donc Luzolo, c'est un peu ce personnage-là. Alors je ne sais pas si j'ai envie d'en dire plus, parce que je pense qu'il y a quand même peut-être des effets de surprise à garder, parce que Luzolo aussi va vivre de multiples manières dans le roman. Et je ne sais pas si j'ai envie de tout dire, en tout cas concernant les devenirs de ce personnage. Mais effectivement, si on veut garder le schéma d'un roman un peu picaresque, et surtout peut-être dans la veine de ce qu'a pu faire Don Quichotte dans Don Quichotte, j'aime beaucoup comparer Luzolo à une conscience, parce qu'il n'est véritablement pas une conscience. Ce n'est véritablement pas un personnage qui donne des leçons, ou qui fait la morale, ou qui peut-être en saurait un petit peu mieux sur la vie que d'autres. Mais c'est un personnage, en tout cas, qui est toujours présent dans les aventures, quelle que soit leur issue, que ce soit une issue véritablement pleine de félicité ou une issue parfois tragique. Donc c'est un personnage qui ne quitte pas le roman et qui accompagne la narratrice du début à la fin. Et sur l'apparition de Luzolo, c'était vraiment intéressant en tout cas de travailler sur ce personnage parce que c'est un livre ou en tout cas un roman où la question du discours, dans ce qu'elle a de léger, dans ce qu'elle a de tragique, dans ce qu'elle peut avoir de burlesque, ou dans toute la bêtise aussi qu'elle peut, en tout cas, nous amener à comprendre, la bêtise du langage, en tout cas, qu'elle permet de poser, eh bien, cette question du discours, elle prend un tour différent, je trouve, avec Luzolo, qui va, dans le roman, passer son temps, là aussi, à déployer de grands discours sur l'art, en tout cas, un peu pseudo-théorique, dans des espaces plutôt burlesques comme des boulangeries ou que sais-je encore. Et c'était un petit peu ce personnage un peu humoristique et un peu singulier que j'avais envie de créer et avec lequel justement la narratrice va pouvoir essayer de mieux comprendre ou en tout cas avoir un rapport réflexif à son existence et à l'aventure qui est la sienne.
Vous avez parlé d'un carnet que Luzolo offre à la narratrice. Dessus, elle y rédige un manuel recueilli pendant mes conversations, mes voyages, griffonné sur les routes. Ça aussi, c'est un fil conducteur, puisqu'on a de nombreuses pages de ce manuel. Il est même, à un moment donné, utilisé par la rencontre que va faire ensuite cette héroïne à l'hôtel Béthune. Elle va rencontrer André et Petit Chat, faire aussi l'expérience cruelle de la vie. Elle s'est fait avoir par eux deux, qui sont un peu des filous. Et il y a un usage de ce manuel, et c'est là où on découvre ce manuel qui est recueil de bonnes paroles, peut-être aussi recueil d'incantations, peut-être d'apparitions. On pourrait presque en faire un usage, je ne sais pas, chamanique ou sorcier. Est-ce que vous l'avez conçu aussi dans ce sens-là ?
En fait, ce que j'aimais dans ce manuel, c'est que ce n'est absolument pas un manuel. Et très objectivement, si on le lit, on ne voit pas en quoi ça peut être utile, finalement, pour l'existence quotidienne ou même pour nous apprendre à penser. Et c'est une parodie, mais une parodie qui permettait au moins deux choses. C'est que la narratrice... Quand je vous la décris, on pourrait tout à fait croire qu'on a affaire, là encore, un objet, un sujet victimaire qui, effectivement, subit une violence sociale constante, etc. Et donc, c'est effectivement l'objet du roman. Sa vie est fondamentalement diminuée. Mais ce qui est extrêmement intéressant avec le manuel, c'est qu'on voit que au moins il y a une prise sur cette vie, et cette prise, c'est la pensée, c'est la réflexion, et c'est le fait même très bêtement d'avoir un avis et une opinion sur ce qu'on est en train de vivre. Ce qui fait que le roman, en fait, ne présente pas, en tout cas la narratrice du roman, c'est pas une narratrice dont qu'on pourrait spécifier à partir de coordonnées sociologiques objectives qui montreraient justement le caractère presque destinal de ce qu'elle est en train de vivre. C'est pas du tout ce qui m'intéressait, mais on a affaire, en tout cas, à un devenir sujet. Et tous ces moments du manuel sont des moments réflexifs. On voit en fait comment la narratrice s'accapare ce qu'elle est en train de vivre, comment elle le pense et comment ça ressort, en tout cas, dans le langage qui est le sien. Et beaucoup de passages du manuel, notamment dans la première partie, sont des éructations, sont des humeurs, il y a de la colère, il y a beaucoup de propos en fait qui sont assez passionnés, mais ce sont aussi les premiers passages. Je vais employer peut-être un mot qu'on me reprocherait pour parler de fiction, parce qu'on reproche toujours aux philosophes d'écrire de la fiction, c'est-à-dire de trop intellectualiser. Mais là, en l'occurrence, les premiers passages du manuel qu'on trouve dans la première partie sont des passages dialectiques, c'est-à-dire que très souvent ils sont écrits, ils mettent en avant un premier discours en italique, et ça, ce sont les discours en fait que la narratrice reçoit. Donc, ce sont souvent des discours un peu idiots, qui sont, comment dirais-je, des incarnations peut-être de la bêtise humaine, hein, telle qu'elle peut la subir. Et en dessous de ces discours, en fait, elle répond en tout cas à cette bêtise et cette violence qu'elle reçoit, là aussi avec des grandes tirades lyriques qui sont oui, qui appellent à provoquer l'embardé, comme elle dit lors de la première mention du manuel dans le roman.
Et ce manuel, on peut comprendre aussi en tant que lecteur qu'il contient le secret de la dissociation. Enfin, le titre est important. Et la narratrice parle de qu'elle pratique l'art de la dissociation. Il y a cette belle phrase, elle dit « J'avais des idées et quand je faisais la vaisselle au milieu de la cuisine, mes pensées naviguaient, bercées par le débit continu de l'eau du robinet. C'était mon don, je pratiquais l'art de la dissociation. » Si bien que ce manuel aussi peut se lire, mais en filigrane, pas de manière claire, pas de manière évidente, pas de manière vindicative, mais sort comme ça des évanescents du secret de la dissociation. Il raconte comment le corps peut devenir une ombre. C'est-à-dire que dans votre livre, il n'arrive pas avec des choses très claires, évidentes, avec des énoncés sur d'eux-mêmes. On est dans quelque chose de fluide, quelque chose de doux, d'évanescent, d'un peu. On est toujours derrière des ombres, il y a toujours des cachettes. Rien n'est donné comme ça de manière affirmative. On est plutôt dans une subtilité douce qui, en tant que lecteur, nous laisse aussi essayer de faire notre propre possibilité de ce que pourrait être la dissociation. On n'a pas la dissociation, deux points, je vous donne la définition.
Tout à fait. Et par exemple, c'est vraiment les tous les possibles de l'écriture, en tout cas littéraire, permettent cela. C'est que la dissociation, c'est pas un concept. C'est en tout cas dans le roman une certaine expérience de l'existence. Je pourrais vous dire dans un premier temps, effectivement, c'est le moment où l'esprit s'échappe effectivement du corps pour se défaire en tout cas de la violence qui le contraint dans le monde. Mais c'est pas suffisant. C'est aussi beaucoup d'autres choses, la dissociation dans le roman. Ça peut être aussi une dissociation, des formes de dissociation géographique, des formes de séparation qui sont présentes partout, la dissociation entre le monde des morts et des vivants, etc. Donc on peut vraiment beaucoup jouer sur cette dimension-là, en tout cas dans le roman. Mais en tout cas, ce qui est important pour moi, c'est que la dissociation, c'est pas un concept. C'est pas un concept, et c'est pas un concept tiré, là encore, de la psychologie, parce que c'est un concept qui a une histoire très longue et très forte, je crois, dans la psychologie. Mais c'est vraiment en tout cas l'idée de faire cette expérience qui, là aussi, est extrêmement importante pour l'écriture, puisqu'elle libère aussi un autre pouvoir, le pouvoir de raconter des histoires. Et c'est vrai que dans ce roman, une des jouissances qui a été les miennes, à un moment, c'était de me dire, mais finalement, le pouvoir de raconter ne s'arrête jamais. Et d'une expérience de la dissociation naît une histoire, d'une expérience d'écriture naissent d'autres histoires. Et c'est aussi finalement ce que le roman voulait tenter, en fait, à travers la forme que j'ai choisi et lui donner, et la différence des styles, des niveaux linguistiques, en fait, qui sont mobilisés dans le texte.
Ce que nous n'avons pas dit encore, c'est que vous avez fait un cursus universitaire en philosophie. Vous êtes philosophe, vous êtes une spécialiste de Bergson. C'est pour ça que vous êtes reconnue universitairement. Vous avez écrit des livres, de nombreux articles sur Bergson. Vous venez de dire que le concept, enfin, que justement, la dissociation n'est pas un concept. J'avais plein de questions sur le concept pratique de dissociation, puisque j'ai aussi ce tropisme au concept. Est-ce que ça pourrait être un concept fictionnel? Parce que, en tant que philosophe, vous êtes aussi une spécialiste des études postcoloniales, et la deuxième partie de l'entretien portera là-dessus. C'est-à-dire que vous avez l'habitude de manier des concepts. Or là, en faisant œuvre de fiction, et j'imagine que ce n'est pas votre premier texte de fiction, c'est sans doute le premier texte publié, mais j'imagine que c'est une pratique antérieure que vous avez savamment fabriquée, conçue, et qu'il y a bien de nombreux autres manuscrits non publiés. Mais donc ça veut dire que ça fait partie de votre pratique, la fiction, qui est une pratique, on va dire généralement en Occident, on sépare la pratique philosophique de la pratique littéraire. Un de nos grands romanciers, qui est aussi un grand philosophe, on pense à Tristan Garcia, par exemple, qui a sa pratique philosophique et qui a sa pratique de romancier, et il ne veut surtout pas les mélanger. Il ne veut pas faire une sorte de pratique commune, fiction et philosophique. Et j'ai l'impression qu'il s'agit de la même chose pour vous, que ces deux pratiques bien séparées. Vous me dites, la dissociation n'est pas un concept. Pourtant, à la lecture, moi, de votre roman, j'ai cherché le concept et je me dis, ça pourrait être un concept fictionnel, un concept flou, un concept un peu rencontrologique, pourquoi pas. Pas un concept philosophique, certes, mais quand même, néanmoins, on pourrait garder encore cette possibilité que ça soit un concept.
Merci de cette question que je trouve très très importante et qui met le doigt, là aussi, sur des réflexions qui sont, à proprement parler, inachevées, parce qu'elles sont en cours. Et effectivement, déjà dans un premier temps, sur la question de la tension entre philosophie et peut-être littérature, pour reprendre de manière un peu abrupte ces deux catégories, c'est vrai que pour l'instant, je revendique une séparation radicale, une dissociation, si vous me permettez de me passer le jeu de mots. Non pas parce que je refuse de traiter la question littéraire d'un point de vue philosophique, ou parce que j'ai envie de, je refuse une comparaison qui serait tout à fait intéressante à mener, mais parce que ce qui m'intéresse pour l'instant, en tout cas, c'est de travailler dans cette incommensurabilité. Ce que je refuse, en tout cas, et ça c'est clair, c'est que le roman n'illustre aucune thèse philosophique et ne démontre rien. Et paradoxalement, c'est intéressant aussi, c'est que c'est aussi la lecture, pour le coup, de certains philosophes qui m'a permis d'affiner ou de radicaliser cette incommensurabilité entre l'objet littéraire et l'objet philosophique. Et je pense à des textes de Deleuze dans Critique et Clinique, justement, où il parle là aussi du roman, de la littérature, et où je crois que c'est à propos de Melville. Il parle justement de faire droit à l'irrationalisme. Je ne sais plus quelle est la phrase exacte. Et refuser l'explication, refuser de rendre raison. On ne rend pas raison de la vie, en fait. La vie rend raison d'elle-même. Et c'est vrai que toute cette lecture, cette manière de se rapporter à l'écriture littéraire que j'ai pu trouver chez les philosophes m'a paradoxalement complètement libérée pour faire de la dissociation un objet où l'imagination est insolente, désinvolte, et où elle ne rend jamais raison d'elle-même. Et ça, c'était vraiment ce type d'écriture-là que je voulais trouver. Et l'écriture fictionnelle, en tout cas, permettait ça. L'enjeu, c'est pas tant d'écrire une histoire avec un objet, ce qui m'intéressait pas forcément, mais c'était vraiment de pratiquer, en tout cas, un type d'écriture qui n'est pas soumis au tribunal de la vérité et qui, comment dirais-je, se perd dans les contradictions sans considérer qu'il soit absolument scandaleux de se perdre dans une contradiction et de refuser de la résoudre. Et donc, c'est cette insolence-là qui me plaît dans l'écriture romanesque et qui fait qu'elle apparaît comme étant complètement irréductible à l'écriture philosophique. Donc pour l'instant, c'est cette séparation-là. Et donc après, c'est vrai, si on en vient au mot dissociation lui-même, on pourrait en faire peut-être effectivement un concept souple, au sens où l'entendrait, je reprends l'auteur que j'ai tant aimé lire, Bergson, mais ces concepts souples sont des concepts qui sont avant tout des images et qu'on déploie à partir de ce que Bergson appelle l'intuition, c'est-à-dire une vision pure, première peut-être, de la réalité, et qui de toute façon, quand elle se développe dans le langage, est toujours confrontée à la possibilité d'une contradiction, à ses d'approximation, etc. Un concept souple n'est jamais fixé. Et dans ce cadre, on pourrait effectivement voyager avec un mot, comme le mot dissociation, et tout d'abord, effectivement, le décrire comme un pouvoir, le pouvoir magique de cette narratrice qui a la capacité de s'extraire de son propre corps, comme peut-être un principe d'écriture littéraire, c'est-à-dire la capacité à être dans une espèce de concaténation de temps, d'espace et de lieux qui ne se répondent pas nécessairement, mais qui peuvent vivre ensemble de manière simultanée. Et il y a toutes ces dimensions-là, en fait, qui peuvent être intéressantes. Pour l'instant, je dois vous avouer que je refuse encore cette réflexivité parce que je suis encore dans la surprise de l'écriture littéraire et dans la surprise de toutes les jouissances qu'elle offre. Mais effectivement, la tentation de conceptualiser un terme comme le terme dissociation, qui, par son aridité, peut-être y appelle de manière assez immédiate, pourrait effectivement venir. Mais pour l'instant, je ne le fais pas.
Alors, j'ai cherché réponse à ma question en lisant vos nombreux articles sur les questions postcoloniales. J'avais lu en 2020 le dossier de la revue Multitude qui s'appelle Kinshasa Starline. C'est un dossier que vous avez dirigé, dans lequel vous avez, pour lequel vous avez écrit deux articles, notamment celui-ci, Tanit Anne Toto, Grand Maternité Politique. Or, en lisant cet article, j'ai trouvé déjà peut-être réponse à notamment la question de la relation entre la narratrice et sa grand-mère. Il y a des histoires de filiation aussi dans votre roman. Et il y a des histoires de filiation qui vous, qui parcourent ce dossier, Kinshasa Starline. Et voilà, j'aimerais que vous nous parliez du lien possible. Et j'ai trouvé que sur ce, qui n'est pas un concept, mais ce terme de dissociation. Voilà, j'ai relu le dossier après, le roman bien entendu, il y a antériorité de l'un sur l'autre. Et j'ai trouvé qu'il y avait, il y avait du lien. Par exemple, cette narratrice, c'est une personne de petite taille. On peut l'imaginer en naine, on peut l'imaginer en pygmée. Moi, je l'ai beaucoup imaginé en pygmée, alors, sachant que j'ai appris récemment que l'appellation pygmée était aussi impropre. Mais voilà, j'ai trouvé qu'il y avait un lien possible avec ce dossier, donc avec tous vos travaux sur les études postcoloniales.
Alors, je vais répondre en deux temps. Pygmée, en fait, c'est effectivement un terme impropre. Et tout le début du roman fait quelque chose de terrible. Il y a une caractéristique que je n'ai pas donnée, mais je le fais à dessein, c'est que la narratrice est métisse. Donc la narratrice du roman La Dissociation. Et la prison de langage dans laquelle elle est amenée à évoluer, celle que construit pour elle sa grand-mère, c'est une prison raciale. Et c'est là où la littérature est vraiment géniale, c'est que très souvent, quand on se rapporte aux questions raciales, on les pense d'une manière extrêmement massive et assez objective. Ah, sale noir, ah, sale arabe, et ça y est, on a compris que quelque chose de l'ordre de la race était en jeu à travers l'insulte et l'injure. Mais le racisme, en tout cas, ce n'est pas que ça. Le racisme, c'est une fabulation. C'est le regard qui fait que tout d'un coup, vous ne voyez plus un noir, mais un singe qui, je sais pas, évolue dans les arbres, etc. Et ça, ce sont pas simplement des images qu'on va retrouver dans les fantasmagories coloniales, mais ce sont des images encore et des discours qui circulent à notre époque contemporaine et qui tapisse encore le sol de notre pays, la France. Et donc là, c'est intéressant en fait d'utiliser le langage littéraire pour ramasser avec soi des tonnes de clichés, des mots qui sont violents. J'emploie les termes pygmées, mais j'emploie aussi sauvage, primitif. Dans le roman, à un moment, il y a un discours de la grand-mère en fait qui est une espèce de réinterprétation de l'anatomie nègre telle que la pensent les gens du Ku Klux Klan, mais ça passe en fait comme une lettre à la poste dans une espèce de grand discours de prose un peu halluciné, un peu lyrique justement, où elle objectifie complètement sa petite fille. Et je trouvais ça vraiment intéressant d'utiliser le langage fictionnel pour essayer de mettre le doigt sur une dimension justement du discours raciste, à savoir que c'est un discours de fabulation. De fabulation, peut-être parfois presque onirique, lyrique, mais qui finalement en sert un humain, un sujet humain, un semblable en tout cas, dans une folie délirante qui fait que des correspondances assez folles entre le monde humain, le monde animal deviennent possibles. Et c'était ça que je voulais tenter dans le premier chapitre, où finalement le discours de la grand-mère, c'est un discours raciste, mais là aussi féminisé dans une prose lyrique. Donc on peut retrouver vraiment des mots que moi je n'emploie pas ni en tant que scientifique ni en tant que citoyenne, comme sauvage, primitif, les petites huttes de paille, etc., dont elle parle au début. Et c'était ça qui m'intéressait. Et à ce titre, effectivement, pour répondre à votre question, il est vrai que le monde de la philosophie, et en tout cas les objets qui m'intéressent en philosophie, les concepts, les auteurs que je porte avec moi ou avec lesquels j'aime cheminer, en fait, composent un univers de signes, également un univers sensible qui communique avec le roman, non pas au sens où, comment dirais-je, il viendrait dire, eh bien écoutez, maintenant illustrons de manière romanesque les concepts qui sont mobilisés dans le champ philosophique, mais dans le sens où finalement toutes mes pratiques sont traversées par un paysage sensible, d'où se dégagent des écritures qui vont être différentes et des types de réflexions qui vont être différents. Donc effectivement qu'on retrouve en tout cas dans ce roman, des éléments qu'on pourrait rattacher à des préoccupations de type postcolonial, ou même qu'on y retrouve des éléments liés à ce que j'aime le plus dans la pensée métaphysique occidentale, à savoir la pensée peut-être de Bergson, ça ne me paraît pas absolument, ça ne me paraît pas fou, puisqu'il y a effectivement les imaginaires de ce roman, en tout cas, sont travaillés par une folie métaphysique, sont travaillés par des géographies multiples qui vont se concentrer dans l'itinéraire de ce personnage. Et l'article auquel vous faisiez allusion, Taninan Toto, qui veut dire « protège la terre », c'est une réflexion sur, certes sur la filiation, mais sur le nom, mais aussi sur l'identité. Et un des enjeux de ce texte, c'est de montrer à quel point finalement la constitution ou la politisation des identités, dans certains cas en fait, elle résultait en fait d'une fabulation et beaucoup moins finalement d'une surdétermination de notre rapport au natif ou à l'originaire, mais était le résultat plutôt d'une recomposition d'un ensemble de récits et de fables. Et c'est un peu ce que raconte finalement cet article.
Est-ce que vous pouvez nous parler de ce dossier entier qui s'appelait Kinshasa Starline, notamment aussi l'entretien que vous avez eu avec Achille Mbembe qui s'appelait Réenchanter l'Afrique depuis Kinshasa?
Alors ce dossier, il est né d'un projet qui vient de se terminer, mais qui a été un peu heurté par la pandémie. C'est le projet de la biennale de Kinshasa Yango, qui a été créé en 2014 par l'artiste et photographe Kiripi Katembo. Et la deuxième édition de cette biennale a eu lieu entre 2020 et 2022. Et ce dossier, en fait, c'est un dossier qui essaie d'avoir un peu une prise sur ce qu'a dû être ce projet à un moment justement où il n'était plus possible pour les artistes, ni pour les intellectuels, enfin ni pour n'importe quel habitant de Gaïa justement, de se déplacer et de prendre l'avion, etc. Donc on a été confronté à l'immobilité. Et les ressources finalement qui ont été trouvées pour essayer de quand même donner corps à ce projet de biennale, ça a été l'invention d'une espèce de compagnie ferroviaire imaginaire permettant aux gens de continuer à circuler malgré l'immobilité à laquelle finalement avait dû les contraindre la pandémie. Donc c'était assez intéressant de travailler sur ce projet de biennale parce que dans les faits, les équipes de la biennale se situaient à Kinshasa et en Europe, surtout en France. Et de fait, la biennale est devenue une diaspora avec des personnes travaillant constamment à distance, en télétravail. Et un des enjeux, c'est maintenant qu'on a une biennale qui est une diaspora, en fait, comment fait-on pour, et c'est la grande question que se posent les diasporas de manière générale, comment fait-on pour réunir les familles dispersées? Et c'est comme ça qu'est née la compagnie ferroviaire, la Kinshasa Starline, empruntant son nom à la Black Starline de Marcus Garvey, qui était cette compagnie, pour le coup, maritime, qui visait à faire en sorte que les Noirs mis en esclavage dans les Amériques et les Caraïbes pourraient trouver une compagnie maritime les ramenant vers leur terre première, le continent africain. Et la Kinshasa Starline, c'était un peu cette idée, en fait, créer une espèce de compagnie ferroviaire. Donc on a privilégié l'image du train pour un ensemble de raisons, mais trouver une compagnie ferroviaire qui puisse faire en sorte que la famille dispersée, cette communauté d'artistes et d'intellectuels dispersés pendant plusieurs mois, puisse enfin se retrouver et atterrir, et là je prends encore un terme latourien, puisse atterrir à nouveau à Kinshasa. Donc voilà un petit peu quel était l'enjeu de ce dossier, et on y découvre de nombreuses paroles d'intellectuels, d'artistes congolais, qui là aussi, à travers leurs textes, leurs écrits, contribuent à alimenter la machine à produire des rêves éveillés que doit être une biennale d'art contemporain.
Merci beaucoup. Merci à vous.
Au revoir. Merci.